France.
Bonjour.
Je m'appelle Tom, enchanté, bienvenue sur Énergie.
Bonjour Tom, bonjour chers auditeurs.
Dans quelques instants, tu vas rentrer en stase. L'état de stase, c'est l'arrêt du temps. Mais avant, il faut que tu passes par une étape importante, c'est la rétrospective. La rétro, c'est une interview de 30 secondes durant laquelle je vais te poser des questions sur des moments clés de ta vie. Okay. Les horloges s'arrêteront ensuite de tourner et nous pourrons démarrer la discussion. Est-ce que tu es prête ?
Je suis prête.
Angélique, ta date de naissance ?
9-10-90.
La ville où tu as grandi ?
Vauréal.
L'endroit préféré de ton enfance ?
Vauréal.
La personne qui t'a le plus inspiré ?
Mes grands-mères.
Sans compter ton élection à un moment marquant de ta vie ?
Mon premier appartement.
La valeur à laquelle tu es la plus attachée ?
La bienveillance.
Le conseil qui a changé ta vie ?
De faire toujours de son mieux.
Ta destination de rêve ?
Tahiti.
On passe en stase. Angélique, au cours de ce podcast, on va voyager d'abord dans ton présent, ensuite on ira dans ton passé et enfin dans ton futur.
Prête. La musique est stressante.
C'est vrai ?
Ouais.
Bah, c'est fait pour.
Ok.
Est-ce que t'aimerais arrêter le temps parfois ?
Oui, bien sûr. Pour vivre des moments un peu plus longs avec ma famille, avec mes amis. Ouais.
Particulièrement en ce moment.
Absolument. Ça passe à une vitesse, c'est hallucinant.
On va en parler de ça, oui. De la perception du temps. Cette interview, c'est un peu le conseil de classe du premier trimestre. Hein. Comment se sont passés ces trois premiers mois en tant que Miss France ?
Eh ben écoute, comme diraient mes bulletins scolaires, peu mieux faire. mais tout s'est très bien passé dans l'ensemble. Un très bon trimestre et poursuis tes efforts, Angélique.
C'est vrai, ouais. Sur à quel niveau ?
Bah tous. J'ai l'impression que je peux sans cesse m'améliorer, ne serait-ce que dans mon rôle de Miss. Non, je pense que je m'améliorerai au fur et à mesure de l'année.
Moi, je trouve justement, c'est ce qui a fait ta force, c'est que parmi toutes les Miss, je trouve que tu fais partie de celles qui ont été le plus prêtes à la couronne.
Ah ouais ?
Ouais.
Mais peut-être que je ne me rends pas compte, mais c'est peut-être aussi du fait de l'âge, du fait que je travaille depuis longtemps, j'ai été amenée à rencontrer différentes sortes de cultures, différentes types de catégories socio-professionnelles, et j'ai l'impression que ça m'a un petit peu mis dans ce bain, en fait.
Tu as du vécu.
J'ai du vécu.
Voilà. On en parlait. Est-ce que ta perception du temps a changé avec un emploi du temps aussi rempli ? Est-ce que tu n'as pas l'impression parfois qu'un mois peut endurer le double ?
Si, un petit peu. Tout comme une journée peut endurer le double aussi, ça c'est vrai. Après, j'avais l'habitude que le temps file à une vitesse parce que j'étais hôtesse de l'air. Donc, on avait l'habitude de passer d'un fuseau horaire à un autre et de pas compter le temps de sommeil, le temps de repos, etc. Donc, en vrai, là, j'ai juste l'impression d'être en train de faire la continuité de ce que je faisais déjà.
Une bonne préparation. Hein.
Ouais, exact.
Malgré tout, hein, comment on gère cette cadence ?
On gère pas. On se laisse. On se laisse porter. J'essaie de cadrer un petit peu ma vie quand même et de me lever, par exemple, 2 heures avant les prestations pour avoir bien le temps de me préparer, bien le temps de me maquiller, etc. Et puis le soir, je m'accorde toujours un petit temps juste pour moi, pour déconnecter de tout ce qui s'est passé la journée. Et puis c'est important, je pense.
Parce qu'il me semble, arrête-moi si je me trompe, que toi, t'es du genre à être quelqu'un de très cadré au niveau du chrono. Il y a un chrono dans ta tête, quoi, en permanence.
Oui. Mais pareil, je pense, métier d'hôtesse de l'air, j'ai été quasiment toute ma vie dans l'aérien et je pense que les horaires et tout, c'est vraiment un truc qui me... Je veux pas me laisser dépasser par le temps.
Très bien. J'aimerais revenir sur une très très belle photo que Chloé Mozart a prise de toi. Oh. C'est celle-ci.
Oui. Oh là là, waouh. Elle me donne encore des frissons.
Elle me donne des frissons. Qu'est-ce qu'elle évoque pour toi ?
Elle évoque tout. Elle évoque ma fierté première d'être martiniquaise et de brandir ce drapeau pour lequel les Martiniquais se sont battus. C'est un drapeau qui représente beaucoup. Il a trois couleurs. On l'appelle le RVN, le rouge, vert, noir. Et je sais qu'il compte énormément pour les Martiniquais. Et puis, cette robe de princesse désormais, parce que je suis un peu la petite princesse du pays, de voir tous ces gens autour de moi, d'avoir l'impression d'être portée par des gens, enfin, c'était... Bah, ça fait quoi, 10 jours à peine que je suis revenue et j'ai encore l'impression d'être sur mon petit nuage. Je réalise absolument pas. J'ai vraiment eu la sensation d'être en apesanteur et que j'étais portée par les gens. Enfin, c'est assez irréel comme sensation. Et vraiment.
Dissociation totale.
Ah ouais, complètement.
Ah, c'est curieux, ça.
Je pense qu'il me faudra 3 ans pour réaliser tout ce qui s'est passé, réaliser que je suis la première Martiniquaise à ramener la couronne de Miss France et voir la ferveur dans les yeux des gens, leur fierté, comme si t'étais leur petite fille. Ça, c'est dingue.
Et puis cette photo, et puis il faut savoir que ce drapeau, en plus, il est récent. Tu disais, les Martiniquais se sont battus pour
le drapeau.
Absolument. Effectivement, il est tout jeune. Hein.
Il a deux ans ou trois, pas plus. Les couleurs nous tiennent à cœur. Le vert représente les terres, le rouge représente le sang versé par les esclaves et le noir notre couleur de peau. Donc c'est vraiment une très belle fierté pour moi de brandir ce drapeau.
Après plus de 35 ans, les Pays-Bas ont mis un terme à leur concours de beauté pour le remplacer par une plateforme dédiée à la santé mentale et au partage d'histoires positives. Selon toi, dans quelle mesure le concours Miss France est-il encore de son temps ?
Alors, je pense qu'il s'améliore en fonction de justement l'évolution des critères et l'évolution de notre génération tout simplement. Donc je pense que c'est un concours qui perdurera et parce que les gens sont très attachés. Il y a vraiment une sorte de... un temps qui s'arrête quand le concours Miss France arrive. C'est vraiment le concours qui donne le la sur les fêtes de fin d'année. Tout le monde attend chaque année la Miss France. Et je pense qu'ils ont compris qu'il fallait aller avec son temps. Et ça, c'est bien parce qu'on voit un nouveau visage moderne, des règles qui changent. J'en suis la preuve. Et ça marque la différence.
Le début de ton année a été marqué par des événements positifs et des événements négatifs. Un peu plus négatifs. Cyberharcèlement, insultes, violences de façon générale. Cette interview, tu vois, on aurait dû la faire il y a un mois, mi-janvier.
Oui.
Et la veille de l'entretien, l'organisation m'appelle et me dit « on annule ».
Oui. «
Miss France ne communique plus ».
Oui.
Alors à quel moment cette haine gratuite avec laquelle tu arrivais pourtant à prendre du recul n'était plus gérable ?
Juste après un malheureux épisode où la force d'Internet a réussi à découper un petit extrait malencontreux et des propos qui ont été complètement sortis de leur contexte. Ce qui est dommage parce que tout le reste de l'interview était très cool, si je puis dire. En plus, je venais juste de reprendre, on sortait des vacances de Noël, donc moi j'étais encore dans toute cette folie de comprendre précisément ce qui m'arrive. Et en fait, les gens ont réussi à faire de cette petite couronne, l'espace de quelques secondes, un enfer. Derrière cette écharpe, j'ai décidé de pas forcément me cacher, de pas mettre sous le tapis mes émotions, mais vraiment d'être moi-même. J'ai presque regretté cette écharpe et cette couronne. J'ai de la chance d'être hyper bien entourée par le comité Miss France, à la société Miss France, et ils m'ont vraiment protégée. Et ils sentaient que j'en pouvais plus, en fait. Ils sentaient que c'était un petit peu trop pour moi. Il y avait déjà l'information d'avoir gagné cette couronne qui était... C'est irréel, ça l'est encore à l'heure actuelle. Et moi, j'ai l'habitude de voir les gens comme des bisounours. J'aime les gens, j'aime aimer les gens, et je pense que c'est le propre d'une Miss France. Mais là, les gens ont réussi à me faire les détester, puisque je pensais pas qu'on pouvait être aussi méchant. Moi, je comprends pas quand on le fait à quelqu'un sur Internet, mais quand ça vous arrive à vous, c'est impressionnant. Et puis les gens ont le don de tout whip-in, comme on dit aujourd'hui, de tout mélanger. Et ben, j'ai reçu des messages à caractère raciste, mais qui dépassent tout entendement. Je le dis beaucoup dans les interviews, mais moi, je suis la génération 90, donc black, blanc, beurre. On faisait pas la différence entre les origines, entre les religions, entre tout ça. Et là, me manger des vagues de raciste, de ma couleur de peau qui se mélange avec la couronne, que je représente pas la France, etc. J'en pouvais plus et je pense que le temps de pause était nécessaire à ce moment-là.
Jusqu'alors, tu arrivais à prendre du recul. T'as toujours été forte dans tes interviews d'avant, avant cette pause. Tu le disais, mais j'arrive à prendre du recul et tout ça. Et à un moment donné, est-ce que t'as senti ce déclic où tu t'es dit, j'y arrive plus?
Ouais, je l'ai senti. Je me suis levée un matin et tout était très lourd. Tout était très lourd. Me lever... C'était très lourd, me maquiller, ça me prenait 2 heures alors que je le fais en 10 minutes. M'habiller, je me sentais très lourde, très fatiguée. Et puis, il y a tout ce qui s'est passé en amont, les mois où j'ai pas forcément vu le temps passer, etc. On était dans une espèce d'énergie où j'y vais, je regarde pas, let's go, Angélique. Et en fait, non, il fallait que ça s'arrête l'espace de quelques instants parce que j'aurais pu être moi-même. Peut-être que mes mots auraient pu dépasser leurs pensées et il valait mieux qu'on mette une petite pause, ouais.
Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans cette période ?
Mes proches, ma grande sœur Jessica, à qui je dois beaucoup. Un jour, elle m'a dit une phrase toute bête. Elle était passée à la maison parce que c'était une journée un peu plus sans. Et quand elle est partie de chez moi, elle m'a dit « Quand tu seras triste, pense à nous derrière toi, toute la famille à la queue leu-leu en train de te pousser. » Du coup, j'ai cette image très drôle dans la tête. Et ça m'a fait du bien, mes proches. Un socle familial et amical tellement solide et qui me pousse tellement que ça m'a consolée.
J'aimerais revenir sur une remarque. Tu fais partie de la génération 90.
Oui.
Les critiques ont toujours existé, les commentaires haineux aussi.
Mm-hmm.
Mais j'ai l'impression que ça a pris une tournure beaucoup plus brutale ces derniers temps. Est-ce que tu partages cette sensation ?
Je partage totalement cette sensation. En plus, l'avènement des réseaux sociaux, j'ai l'impression, a fait que les gens ont justement pris des aises un petit peu de manière trop importante sur les réseaux. Mais je me souviens pas qu'on était aussi méchants avant.
Bien sûr, oui.
J'ai l'impression que Internet, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et je comprendrais jamais l'intérêt de perdre son temps à dire quelque chose d'ultra méchant à quelqu'un et d'aller se coucher après comme si tout était normal. Non, ça sera jamais normal.
Ce qui me choque d'autant plus, parce que tu vois, à ta place, j'ai eu par exemple des candidates de la Star Academy, qui elles aussi.
Bah, bien sûr.
Elles en ont mangé, et ce qui m'a choqué, parce que des fois je pose des photos avec elles et tout ça sur Insta, c'est qu'il n'y a pas de profil type.
Non.
Pour ces commentaires haineux, c'est-à-dire que des fois je reçois des commentaires insultants, mais c'est de la part des gens qui ont manifestement la soixantaine, quoi,
oui,
qui peuvent être nos parents.
Mais c'est ça qui me. La plupart, moi, c'était ça. Et ça me rendait folle. J'étais en mode, mais moi, à 60 ans, j'espère faire autre chose que passer sur l'Instagram d'une jeune fille que je connais même pas et l'insulter. Tout comme ça peut être des enfants de 13 ans. À 13 ans, je joue encore au Barbie. Je n'en avais rien à faire de me soucier de telle miss ou telle miss. Je m'occupais de moi et j'ai pas été éduquée comme ça. C'est surtout ça, en fait. C'est une question d'éducation. Et comme je le dis dans les interviews, c'est pas que de l'éducation parentale. Parce que passer un certain stade, on s'éduque soi-même. Moi, je lis des livres, j'essaie de regarder des documentaires qui me font du bien, des films qui me font du bien. Et en fait, c'est aussi ça, l'éducation. On remet ça beaucoup sur le dos des parents, mais en fait, il faut s'éduquer soi-même, passer un certain stade, quoi.
Se responsabiliser, en
fait. Exactement.
Angélique, il est temps d'explorer ton passé. Tes deux parents sont martiniquais d'origine. Le
oui.
Papa du Fonds-Saint-Denis et la maman du Morne-Vert.
Absolument.
Mais toi, tu as grandi en région parisienne, dans le 95 à Vauréal.
C'est ça.
Alors, à quoi ressemble l'enfance d'Angélique ?
Une enfance très heureuse dans un petit quartier pavillonnaire de Vauréal. L'école du Boulingrin qui me voit évoluer est juste à côté de la maison. Donc, je rentre manger entre midi et deux. Toutes mes copines et voisines, on est toutes dans la même école. Je suis très heureuse. Je fais une partie de mon collège là-bas jusqu'à la milieu de troisième. Et puis après, je déménage avec ma mère. Je vais grandir à Épinay-sur-Seine dans 93, juste à côté. Je suis assez chanceuse. Je me dis chanceuse d'avoir pu changer de ville parce que je pense que j'aurais jamais pu aller en général si j'étais restée à Cergy. On m'a donné vraiment cette chance de pouvoir m'exprimer. J'étais très forte en langue, j'étais très forte en lettres. Et quand je suis arrivée à Épinay-sur-Seine, j'avais un petit niveau au-dessus et on m'a laissé la chance de m'exprimer et j'ai pu avoir un bac littéraire et poursuivre mes études et l'avoir.
Est-ce que petite, tu te voyais déjà de près ou de loin dans ce monde des Miss ?
Pas forcément. J'aimais beaucoup la beauté, forcément. Le premier cadeau que ma mère m'a offert en maquillage, c'était un petit roll-on qu'on mettait sur les yeux avec des paillettes. Donc j'allais au collège avec. Après, j'ai toujours été une fille, aussi loin que je m'en souvienne. J'ai toujours aimé le vernis, les paillettes, les robes, etc. Mais le monde des Miss, ça me paraissait tellement inaccessible que non, j'en rêvais pas plus que ça. Peut-être un peu de mannequinat, mais pas forcément les Miss.
On te disait jamais, quand t'étais ado, tu devrais être mannequin, tu devrais...
C'est arrivé à partir de la cinquième, parce que j'étais très grande.
Eh oui.
Ouais, je faisais 1m77 à 13 ans, je crois. Et à partir de là, on commençait à me dire, ah, tu devrais être mannequin. Et je me dis, ouais, pourquoi pas. C'était loin, ça, pour moi. Moi, j'étais que dans mes Barbies. Donc non, c'était un peu loin.
Il y a un événement marquant, il est sous-entendu là, dans ton récit. Lorsque tu es ado, c'est la séparation de tes parents à l'âge de 15 ans, il
oui.
me semble.
Ouais, c'est ça.
Comment t'as vécu cet épisode-là ?
Pas mal, pas bien. Je me souviens d'être restée calme. Je voulais pas être une valeur ajoutée à la peine de ma mère. Donc j'étais dans mon coin, pareil, avec mes Barbies, dans mon petit monde. Mon frère et ma sœur géraient aussi de leur côté. Je pense qu'on s'est chacun géré. On a vu que c'était peut-être un petit peu compliqué pour ma mère, donc on a décidé de la soutenir, de l'aider, etc. Et puis, c'est dans notre éducation, mais on a toujours respecté nos parents, donc j'ai pas fait de crise d'adolescence, j'ai rien fait de bizarre, pas de grosse colère sur ma mère ou quoi que ce soit. Et puis, mes parents se sont séparés en bons termes, donc ça aussi, c'est important. Et aujourd'hui, ils s'entendent très, très bien. Donc, une petite phase un petit peu difficile, mais rien d'insurmontable.
Tu dis que tu n'as pas fait de crise d'adolescence. Est-ce que tu as été adulte très vite ?
Probablement. Il y a eu un gap entre mon adolescence et la phase adulte. J'étais chez ma mère et du jour au lendemain, j'ai pris mon appartement en colocation avec une de mes anciennes copines. Et j'ai l'impression que ça m'a fait grandir d'un coup, vraiment. Et après, je me suis responsabilisée. Il a fallu trouver mon premier travail, payer mes premières factures. J'ai pas senti le... Je quitte le nid tout doucement, etc. Non, je suis vraiment passée de rien à tout.
Dès 17 ans, le premier boulot.
C'est ça, caissière.
Oui, donc effectivement, t'as enchaîné, t'as bossé aussi dans les assurances,
oui.
Le tourisme.
Oui.
Ça, c'est plutôt vers la fin. C'est aussi pour ça que t'as voulu prendre ton indépendance et un peu pour décharger ta maman.
Aussi, peut-être. Et puis moi, j'avais besoin de me faire mes propres sous, m'acheter mes propres vêtements. Voilà, quoi, ça faisait bien dans une conversation de dire, bah, moi, j'ai une carte bleue. Donc, voilà, je voulais être indépendante, ouais.
Et t'affirmer dans une certaine mesure.
Affirmer, je pense, oui.
Qu'est-ce qui t'a poussé quand on est en 2010 à te présenter une première fois à l'élection de Miss Martinique?
Le hasard. Je me balade sur Facebook et puis je tombe sur cette annonce du comité Miss Martinique à l'époque. On organise un casting pour la diaspora martiniquaise présente à Paris. Et puis moi, je décide d'y aller. Donc, pour la première fois de ma vie, je rentre dans un palace, le Royal Monceau, puisque ça avait lieu au Royal Monceau. Donc, j'étais tout émerveillée. Et puis, pour la petite histoire, on devait être habillé en tenue de ville. Tenue de ville, c'est quelque chose de très chic, très élégant aux Antilles. Sauf que moi, j'avais pas compris. Tenue de ville, pour moi, c'était la tenue dans laquelle je vais faire du shopping. Donc, j'avais un débardeur avec un jean troué, des baskets. J'avais pas trop compris. Et puis voilà, je fais ce casting et je suis sélectionnée. Donc moi, je suis très contente. Je me dis, bah au moins, ça me fera des petites vacances aux Antilles. Et puis si je gagne, eh ben tant mieux, je m'installe aux Antilles. Voilà, on réfléchit pas de la même manière à 20 ans et aujourd'hui à 34, ouais.
J'imagine.
Ouais.
Heureusement, quelque part.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que ce qui t'attire dans la figure de Miss, c'est le parallèle avec la figure de femme potomitan qu'on retrouve aux Antilles?
Oh, c'est beau. Qui t'a appris ça?
Maureen.
Oh. J'adore. Je pense que derrière toutes ces paillettes, les gens peuvent apercevoir une once d'une femme forte. Et c'est vraiment ce que je m'évertue à être là toute cette année. Ce que je vais m'évertuer à être toute cette année, c'est de montrer que je suis une femme forte et que je suis une femme qui a des choses à dire. Pas tout et n'importe quoi non plus, mais qui est intelligente, qui sait se gérer, qui sait mettre en avant ses origines. Et ouais, j'ai l'impression que je fais le parallèle, ouais.
Alors, on l'a dit, tu as grandi en Île-de-France, mais il y a 2 ans, tu décides de t'installer à Mada. Pourquoi?
Parce que j'arrivais plus. Paris, c'est une relation toxique.
Oui.
On est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas?
Bah, moi, ce qui me tient ici, c'est les occasions professionnelles.
Mais c'est toxique parce que je l'aime, Paris.
Oui.
Mais des fois, je peux plus me l'avoir. Et j'ai vécu 33 ans ici, c'était 32 ans même. C'était long. Mais du coup, je pouvais plus. Et en fait, il fallait la quitter pour mieux la retrouver. Et je m'étais toujours dit que si je revenais à Paris, ce serait pour vraiment faire des trucs de fou, parce que ma vie aura changé, mais sinon je voulais pas revenir. En fait, j'avais besoin de changer d'environnement, j'avais besoin de plus de lumière, j'avais besoin de soleil, j'avais besoin de la plage, j'avais besoin de retourner auprès de mes proches. Enfin, j'ai même pas réfléchi, j'étais juste bien. Et j'ai eu le déclic en 10 juillet 2021, je suis descendue de l'avion, et je saurais pas l'expliquer. Il fallait que je m'installe en Martinique. C'était inexplicable. C'était plus fort que moi. Dès que je partais de là-bas, je pleurais. Et il pleuvait à chaque fois que je partais de là-bas. Donc je me disais, mais c'est sûr, je suis la petite princesse de la Martinique ou quoi? À chaque fois, elle pleure en même temps que moi. Donc non, il fallait que j'aille m'installer là-bas. Et je me suis écoutée et let's go. Et c'était la meilleure décision de ma vie. Vraiment.
Bah vraiment. Oui. Bah là, pour le coup, c'est un hiatus là d'un an. Hein.
Ouais, c'est vrai. C'est
qui
vrai.
Était il y a quelques temps, oui. Mais j'imagine qu'elle te manque un peu, Lila.
Un petit peu beaucoup, ouais.
Là, effectivement, on n'a pas le même climat. Mais quand tu parles de relations toxiques, je comprends totalement. Il
n'y
a que le boulot qui me retient et les concerts et
mais
tout ça.
Mais on l'aime, Paris.
Oui. L'été, sous 45 degrés, j'aime beaucoup Paris,
c'est vrai,
oui.
C'est
mais
vrai.
Autrement, la ligne 9, tu vois, tous les jours, je ne suis pas hyper fan non plus. S'il y avait quelque chose, un souvenir ou une personne de ton passé que tu aimerais faire revenir dans ton présent, ça serait quoi ou qui?
Ce serait mes grands-mères, les deux. Pour la petite anecdote, je suis née le 9 octobre. Ma grand-mère maternelle est née le 9 octobre et j'ai enterré ma grand-mère paternelle le 9 octobre. Oui. Et les deux m'ont littéralement portée. Je pense que j'aurais aimé qu'elles vivent ça avec moi, qu'elles soient, vous lire la fierté dans leurs yeux, mais moi je suis très spirituelle et j'ai vraiment l'impression qu'elles me portent au quotidien, donc je peux pas les faire revenir, mais je sais qu'elles sont là.
On mentionnait la figure de femme potomitan.
Ah oui.
Est-ce qu'elles incarnaient ça aussi?
Bien sûr. Alors, mais c'est plus que potomitan. Elles, c'était le ciment même. C'était. Aux Antilles, les femmes comptent pour beaucoup dans la famille. On compte beaucoup sur la femme pour l'éducation des enfants, pour tenir une maison, etc. Et vraiment, ces femmes-là, mes deux grand-mères représentaient tellement, tellement.
Et est-ce que leur disparition a retiré quelque part un certain noyau à ta famille? Parce que je sais, quand j'en ai discuté, je te parlais de Maureen, elle m'a dit, c'est plus pareil les réunions de famille, c'est plus pareil, il y a plus de noyau, il y a plus de...
Il y a toujours un noyau parce que mes deux familles ont décidé de rester quand même soudées. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose. C'est pas, il manque leurs pâtes, il manque leur cuisine, il manque leurs odeurs, il manque leur présence, simplement.
Angélique, on a fait le présent, le passé, qu'est-ce qui nous reste?
Le futur.
Une année, ça passe très 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 vite.
Oui.
Est-ce que tu sais déjà à quoi ressemblera l'après Miss France ?
Absolument pas. Et là où j'ai l'habitude de toujours tout contrôler dans ma vie, là j'ai pas envie de contrôler, j'ai envie de lâcher prise et me dire bah je saisirai les meilleures opportunités, peut-être que je retournerai dans les avions, qui sait. J'essaie de pas prévoir.
Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui pourraient t'attirer?
Oui, forcément, forcément, tous m'attirent un petit peu, je commence à regarder un petit peu, mais je verrai.
Est-ce que t'as peur du trop tard?
Un petit peu, ouais. Avec cette sensation d'être passé à côté de quelque chose, oui, je pense comme tout le monde. Tout le monde ne se l'avouera pas, mais je pense que tout le monde a peur du trop tard.
Et comment tu fais alors pour rester en phase, pour te dire que je suis au bon endroit, au bon moment?
J'essaie de m'ancrer dans l'instant présent, j'essaie de... Même si c'est une émotion que je capte sur le coup, j'ai l'habitude d'exprimer ce que je ressens. Donc, par exemple, si je me sens bien, je peux m'arrêter 2 secondes pour me dire « Mais là, je suis trop heureuse, c'est trop bien ». Voilà, ça, c'est juste s'ancrer dans le moment présent et avoir toutes les émotions la même, quoi.
Être Miss France aussi, ça peut t'aider
Ah ouais. Pour l'instant, j'arrive pas forcément à l'entrevoir parce que les gens me voient Miss France, mais moi, je me vois toujours Angélique. Donc, pour moi, ma vie n'a pas changé, entre guillemets. Mais peut-être que ça va m'aider, ouais. Je l'espère.
Je sais qu'il y a une cause qui te tient à cœur,
oui.
C'est la lutte contre le cancer, le cancer du sein plus particulièrement. Est-ce que tu continueras à te consacrer à cette cause?
Bien sûr, œuvrer dans les associations, qu'elles soient ici ou en Outre-mer, et parler de tout ça dans les écoles, dans les lycées, et ouais, pourquoi pas, bien sûr.
Pourquoi elle te tient autant à cœur, cette cause?
Parce que maman a eu un petit cancer du sein il y a bientôt 3 ans, en avril ça fera 3 ans. Maintenant elle est sous traitement hormonal pour une durée de 5 ans. Parce qu'un cancer, c'est jamais vraiment fini. On a l'impression, mais c'est jamais vraiment fini. Là où on a eu de la chance, entre guillemets, c'est qu'on n'est pas passé par la phase chimiothérapie, mais par la phase en radiothérapie, qui est tout aussi éprouvante. Mais ouais, j'aimerais venir en aide à ces femmes et les aider à reprendre confiance en elles et libérer la parole autour de ça, parce que bah, tout change dans leur vie, que ce soit leur vie sexuelle, leur vie amicale, leur vie amoureuse. Tout change, donc j'aimerais beaucoup parler avec elles, organiser des ateliers, etc. Et œuvrer, ouais.
Toi, justement, qui as été dans l'entourage de ta maman, l'entourage direct, je sais que ça n'a pas été un moment facile, cette période-là.
Ouais, mais elle laissait rien transparaître. Elle laissait rien transparaître. Quand elle rentrait de ses radiothérapies, elle faisait à manger comme si de rien n'était. Elle ne voulait pas qu'on l'accompagne à ses séances parce que bah, je pense que c'était son moment à elle. Elle avait besoin de se gérer toute seule, gérer sa maladie. Donc, c'était sa petite sœur qui l'accompagnait, ma tante. Et puis, on parlait pas forcément de ça à la maison, mais je la voyais souffrir forcément quand il fallait qu'elle enlève le vêtement et qu'il était collé à sa peau parce que la peau était un peu brûlée. Bah, moi, ça me faisait un petit peu de peine. Mais voilà, on a décidé de pas en parler. On ramenait pas la maladie à la maison et je pense qu'elle en avait besoin, quoi.
Ouais, ne pas en parler par protection ou par tabou?
Les deux. Je pense les deux. Juste par, moi, je la protégeais, mais elle, je pense que c'est plus un tabou.
Sur le plan strictement personnel, oui. Quels sont les accomplissements que tu aimerais réaliser?
Bonne question. Ah, c'est un futur un peu lointain, mais j'avoue que j'aimerais bien offrir un bien immobilier à ma famille. Acheter une maison qui serait familiale, dans laquelle mon frère, ma mère, ma sœur et mon père pourraient se retrouver. Mais voilà, j'aimerais beaucoup. Et puis, continuer de voyager, découvrir des contrées lointaines, découvrir l'Afrique, découvrir l'Amérique du Sud. Ouais, j'aimerais beaucoup.
Nous arrivons à la dernière partie de l'émission. Angélique, je vais déclencher la capsule. Tu seras complètement seule pendant 1 minute. L'occasion de te confier sur le sujet de ton choix. Déclenchement de la capsule dans 10 secondes. Et moi, je te dis au revoir, Angélique.
Salut.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Open the capsule.
Eh bien, écoutez, j'ai 1 minute pour parler, 1 minute pour vous dire de persévérer dans la vie, qu'importe ce que vous souhaitez faire, qu'importe les obstacles qui se dressent devant vous. Je ne suis pas la mieux placée pour parler, j'ai pas le profil type de la personne qui réussit tout dans sa vie, au contraire. Mais si je peux vous inviter à vous accrocher à quelque chose, de bien vous entourer, de rester vous-même en toutes circonstances, même si c'est une notion qui vous paraît comme ça un petit peu bizarre, erroné ou quoi que ce soit, restez vous-même en toutes circonstances, ce sera votre plus belle victoire. Persévérez, entourez-vous bien, continuez d'avoir une belle spiritualité, faites confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Et puis, quant à moi, j'espère passer une très belle année avec vous et puis continuez de persévérer dans tout ce que vous ferez. C'est assez stressant, il y a 10 secondes, 9, 8, 7, 6. Je vous souhaite une très belle fin de journée. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. Je vous souhaite très gros bisous. À bientôt. Bye bye.